On est en train de faire une petite étude sur la moisson des âmes. Le but, c'est qu'on ait une vision, que le Seigneur veut nous donner une vision de son œuvre d'évangélisation qui reste à faire. On est dans les derniers qui sont rentrés à la fin de l'histoire, on est presque les derniers. Mais tant qu'on est ici, ça veut dire que la dernière brebis n'est pas rentrée dans l'Église du Seigneur. Il a dit, il faut que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations, alors viendra la fin. Puis il dit, use de patience envers nous afin qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à repentance. Même le dernier prévu par Dieu entre, c'est là que ça va se faire, la porte va être fermée. En attendant, il use de patience, puis il fait l'œuvre. Le Saint-Esprit travaille, il veut sauver les âmes. Mais les âmes ne sont pas sauvées tout seules que par le Saint-Esprit. Il a choisi Dieu de faire un plan, que nous sommes actifs avec lui pour travailler au salut des âmes. Dans l'Apocalypse, ça dit... L'Esprit, le Saint-Esprit et l'Épouse disent « Viens ». C'est qui est l'Épouse du Seigneur?
C'est nous autres.
C'est nous autres. On doit le proclamer, on doit élever Jésus, on doit parler de Jésus, expliquer le plan du salut. Dieu veut nous utiliser. Comme j'ai parlé un peu aussi dans les leçons antérieures, Jésus, quand il a enseigné aux disciples l'ABC de l'évangélisation. Les disciples, là, les premiers disciples, il y avait peut-être un mois, deux mois dans le Seigneur, quand ils ont parti, ils ont été envoyés par Jésus, les 12 apôtres, pour aller évangéliser. Il leur a dit comment faire, qu'est-ce qu'ils devaient faire. On l'a vu, mais on va vous le dire rapidement. Première chose, il dit, dites que le royaume de Dieu s'est avancé. Faut que la personne qui va parler de Jésus soit consciente de ton rôle, de ce que tu es. Tu es un enfant de Dieu, tu es un représentant de Dieu sur la terre, tu t'en vas pas là pour faire du porte-à-porte pour dire « viens à mon église ». Non, j'en viens de présenter le royaume de Dieu. On s'en vient de parler, c'est le royaume de Dieu qui s'est approché. Après ça, il nous dit « bénissez, lancez votre paix là-dedans, dites « shalom ». Que la paix soit sur cette maison. Puis s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix va tomber sur lui. Puis s'il n'y en a pas, elle va vous revenir. Donc, à chaque fois qu'on bénit dans le nom du Seigneur, il y a une bénédiction qui s'en va. Puis ces gens-là, ils en ont besoin autant que nous autres. Mais nous, on se bénit à la semaine longue, puis on est béni par Dieu. Mais eux, ils n'ont jamais de bénédiction de Dieu. Ils ont besoin d'en recevoir afin de se rendre compte que Dieu est là. La troisième affaire qu'il lui a dit, y a-tu des besoins dans cette maison-là? Y a-tu des malades, des gens qui ont besoin de délivrance? Il dit, guérissez les malades, chassez les démons. T'es là pour présenter le royaume de Dieu, puis t'es là aussi pour pouvoir prier pour les besoins. Puis tu t'attends à ce que la puissance de Dieu les touche. Puis là, ils vont accepter Jésus-Christ ou ils vont se rebeller, mais ils vont réagir face à ce que Dieu va faire. C'est quelque chose entre Dieu et eux. Mais nous, on est là pour présenter Dieu. Puis on donne une occasion à ces gens-là de pouvoir entendre le message et être sauvés. Puis Dieu a choisi de faire son plan. Il nous utilise, nous, les chrétiens. Puis Paul, il l'a enseigné dans Romains. J'en ai pas parlé, mais je vais vous le dire là. Il dit, comment croiront-ils s'il y a personne qui prêche? Ça prend des gens qui allaient le dire, qui allaient cogner à leur porte. Faire une évangélisation systématique dans le lieu où vous habitez. Il y a plein de portes ici dans Beauharnois, mais qu'on les ait finies. Il y a d'autres villes autour. De l'ouvrage, il y en a en masse. Ça prend des volontaires. Une équipe qui se lève, qui a travaillé pour le Seigneur. Amen.
Amen.
Là, quand un homme accepte Jésus, moissonner, c'est extraordinaire de récolter une brebis. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses avec ces brebis-là? Amen! Gloire à Dieu! Ils viennent de donner le résumé. On peut s'en retourner chacun chez soi. Non, mais je vais vous quand même... Que doit-on faire après qu'une âme accepte Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur? Faut l'entretenir, faut l'encadrer, faut en prendre soin. Quelles sont les prochaines étapes après qu'on a amené une âme au Seigneur? Parce que c'est beau que tu as accepté Jésus, tu as voté pour Jésus ou tu l'as vraiment reçu, là. Mais est-ce que ça résume toute la vie chrétienne, juste le fait que tu l'aies reçu v'là 5 ans ou v'là 20 ans ou tu parles avec le temps quand tu t'es converti? Ça fait 50 ans que j'ai accepté Jésus, oui. Puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. J'ai accepté Jésus. C'est pas la seule étape acceptée. Comme qu'on a vu dans les premières leçons, même dans les autres leçons antérieures, tu as une porte à trouver, puis tu as un chemin à trouver. Jésus dit, forcez-vous d'entrer par la porte étroite. On le sait que c'est Jésus qui a la porte. Large est la porte, puis spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroite est la porte, c'est Jésus. Resserré est le chemin qui mène à la vie, puis il y en a peu qui les trouvent. Faut que tu trouves la porte, puis faut que tu trouves le chemin. Ben là, quand tu t'en vas parler de Jésus à quelqu'un, tu t'en vas y montrer la porte. C'est Jésus qui sauve, c'est son sang qui était versé à la croix, qui nous donne de pouvoir être pardonné de nos péchés, puis de par la suite, obtenir le Saint-Esprit. Parce que c'est pas à l'inverse, tu peux pas recevoir le Saint-Esprit avant d'être pardonné. L'Esprit peut agir sur ton cœur, il peut te toucher, il peut frapper, il t'invite, mais faut que tu passes par le lavage afin que la sainteté de Dieu soit sur toi. Là, le Saint-Esprit va venir. Parce que l'Esprit Saint n'habitera pas dans un endroit souillé. Jésus t'offre le pardon. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur avec repentance, tu veux changer de vie, tu le reçois. Le pardon. Là, tu demandes d'être rempli de ton Saint-Esprit. Il dit, c'est ça que les apôtres y prêchaient. Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, la promesse du Saint-Esprit est pour tous ceux qui sont invités. Qui ça qui sont invités? Quiconque croit. Fait que tout le monde peut recevoir en autant qu'ils croient et qu'ils veulent changer de vie. C'est ça, la repentance, c'est très important. Fait qu'il y a des étapes, tu rentres dans la porte, tu veux pas laisser cette personne-là à côté sur le cordelage de la porte. Tu veux l'amener, l'initier, lui montrer c'est quoi le chemin, puis l'accompagner dans son chemin. Pas dans son chemin à elle, mais dans le chemin du Seigneur. Dans Matthieu 10, le verset 11 à 14, c'est sur ces passages-là qu'on a basé l'étude. Jésus est en train d'expliquer comment faire pour évangéliser. Il lui dit, dans quelques villes ou villages que vous entrez, informez-vous s'il trouve quelqu'un digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Ça veut dire que la personne rentrait là, la personne le recevait, il rentrait là, puis il devait rester là jusqu'à temps qu'il parte. En entrant, dans la maison, saluez-la, puis si la maison est digne, que votre paix vienne sur elle, mais ce n'est pas digne que votre paix vous retourne. Verset 14, celui que je veux peser aujourd'hui, « Lorsqu'on vous recevra pas, qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez! » Sortez lorsqu'on ne le reçoit pas. Mais Jésus a dit en premier, restez là jusqu'à temps que vous sortiez. S'ils ne le reçoivent pas, tu sors. Ça veut dire, s'ils reçoivent, tu restes. Tu restes. Pourquoi qu'il faut que je reste une fois qu'ils ont reçu? Mais c'est justement à cause qu'ils ont reçu, il faut que tu restes. Dieu vient de te montrer que c'est là, il faut que ça débute. L'Église, dans cette maison, reste là. Ils l'ont reçu, la parole. Occupe-toi de ceux qui sont là. Ils ont besoin de ce que tu vas leur enseigner. Après ça, il va y en avoir d'autres en évangélisant, mais tu les ramènes toutes à cette place-là. C'est là que le noyau grossit puis que l'Église acidifie dans le Seigneur. Amen.
Amen.
Lorsqu'une personne accepte Jésus-Christ, elle a été greffée au corps de Christ. Jésus a une seule église sur tout l'ensemble de la planète. Une église. Jésus a dit, je bâtirai mon église. C'est son corps. L'église est son corps. L'ensemble des croyants forment le corps de Christ. C'est une personne. Tu rentres chez eux, tu la salues, puis tu la bénis, puis tu y parles de Jésus, puis elle l'entend, puis elle est à croix. Elle reçoit, elle dit, oui, je veux être pardonné de mes péchés, j'accepte Jésus comme mon sauveur. Parce que c'est ça qu'on lui présente. On lui présente Jésus. Le Saint-Esprit va rentrer dans sa vie, puis à partir de ce moment-là, est greffé au corps de Christ. Est greffé à l'Église du Seigneur, qui est le corps de Christ. Elle fait partie de la famille de Dieu. C'est une nouvelle brebis dans la famille de Dieu. Faut en prendre soin. C'est un bébé naissant. Ils viennent de naître. Dans Romains 12, 4 et 5, ça nous dit ça. Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Nous sommes tous membres les uns des autres. Tous les enfants de Dieu sont membres les uns des autres. On a une connexion spirituelle qui s'est faite par le Saint-Esprit qui nous unit ensemble pour former une famille, la famille de Dieu. C'est commencé à partir du moment où ce que tu reçois le Christ comme ton sauveur personnel. Maintenant, cette nouvelle personne-là, tu es rentré dans une maison, tu connais pas personne, mais tu lui parles de Jésus, il accepte Jésus. Autant que tu connaissais pas cette personne, mais à partir de ce moment-là, c'est devenu ton frère ou ta sœur. Ceux qui font partie de ta famille sont connectés spirituellement par le Saint-Esprit qu'ils viennent de recevoir. Il y a quelque chose qui se passe dans sa vie, elle a changé de camp. Autant qu'elle était dans le camp du diable 5 minutes avant, mais à partir du moment qu'elle le confesse, elle appartient plus au diable, elle appartient à Dieu, elle s'est repentie. Elle appartient à Dieu, t'es greffé au corps de Christ. Si l'enlèvement aurait lieu là, direct là, à part avec nous. Amen. C'est pour ça qu'elle est devenue importante, cette brebis-là. C'est une personne que Jésus est mort pour elle. Puis là, il faut commencer à s'en occuper, à en prendre soin. Ça va plus loin que juste l'accepter. Est-ce qu'on s'est marié juste pour pouvoir avoir une femme, dire « Je me suis marié un jour pour le laisser traîner à quelque part, qu'on sait même plus où ce qu'elle est rendu, non? » Tu te maries avec quelqu'un, c'est pour rester avec. Mais quand une nouvelle personne accepte Jésus, est greffée au corps du Seigneur. C'est pour l'éternité qu'elle est connectée. Tant qu'elle reste en communion avec le Seigneur, c'est très important. Après avoir cru et greffé à l'Église, quelles sont les autres étapes pour avancer dans la foi, dans la marche chrétienne? Parce que comme je l'ai déjà dit, la foi ou la vie chrétienne, c'est un mode de vie. C'est pas juste une croyance dans le fond de notre tête, là, oui, je le crée que Jésus est venu v'là 2000 ans, j'ai voté pour lui v'là 20 ans. C'est bien plus que ça, la vie chrétienne, c'est un engagement. Tu t'es engagé, tu t'es repenti, tu veux suivre Jésus. Là, tu as un nouveau mode de vie qui se met devant toi. C'est pas ta pensée qui compte, c'est qu'est-ce que Jésus pense. Là, tu te mets à lire la Bible, puis là, tu apprends. C'est quoi ce nouveau mode de vie-là? Mais il y a une évolution, il y a une croissance. Tu pars à zéro, tu connais pas grand-chose. Au début, tu apprends que Jésus, il est mort pour toi, puis que tu as des péchés, puis il faut qu'il soit pardonné. Fait que là, tu acceptes Jésus pour le pardon de tes péchés. Ça, c'est le premier pas. Le deuxième pas, troisième pas. Le deuxième, on le voit assez facilement. Faut que la personne soit baptisée. Ça dit dans Marc 16, 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Si tu ne crois pas, tu es déjà condamné. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà condamné le péché dans le monde. En envoyant son Fils, il donnait l'opportunité de sortir de notre condamnation. Mais la condamnation est déjà sur l'ensemble de l'humanité. Et le monde entier a péché. Ils sont nés aussi du péché d'Adam et Ève, donc on est déjà sans l'Esprit de Dieu. Puis en plus de ça, on a fait nous-mêmes des péchés, fait qu'on est séparés d'avec Dieu, perdus, privé de sa gloire, on peut pas recevoir, penser qu'on mérite quoi que ce soit, on est tous perdus sans Jésus. Mais la personne qui accepte Jésus, elle croit. Son premier pas d'obéissance que le Seigneur lui demande de faire, c'est de se faire baptiser d'eau. C'est un des premiers pas. Autant que possible, tu y vas aussi vite que tu le peux. Si tu vis dans un pays où il y a 6 pieds d'épave de glace, c'est sûr que là, il faut que tu te grègues d'une place où il y a de l'eau, parce que le mot baptême veut dire immerger, c'est plonger dans l'eau complet. Fait que faut que tu aies soit un bassin d'eau pour une piscine ou un lac. Mais là, on est limité, on les fait pas automatiquement quand il fait froid, mais aussitôt qu'il fait beau, on en voit cet été des baptêmes, des gens qui veulent se faire baptiser. Fait que tu t'engages à suivre Jésus, tu démontres ta foi par les premiers pas. Fait que si tu as laissé cette personne-là chez eux, tu étais lui parler de Jésus, elle l'accepte, puis après ça, tu te dis, ben là, arrange-toi tout seul, moi, je t'ai amené au Seigneur, tu es dans la porte. Là, la personne, qu'est-ce qu'elle va faire?
Elle va retourner dans le monde.
Elle va retourner dans le monde. Pourquoi qu'elle va retourner dans le monde?
Elle n'a pas de soutien spirituel.
Elle n'a pas de soutien spirituel. Puis, on connaît aussi ce que Jésus a dit, que les oiseaux du ciel, ils viennent manger la semence qui a été mise. On l'a vu aussi, j'en ai déjà parlé, que dans l'Apocalypse, il parle des oiseaux impurs, ça représente le diable et ses démons qui travaillent à faire oublier tout ce qu'on peut apprendre de Jésus. Même des fois, tu peux être un chrétien de longue date, en négligeant de te nourrir spirituellement puis d'entretenir ta vie spirituelle, tu te refroidis, puis tu te mets à oublier qu'est-ce que t'es puis qu'est-ce que t'avais à faire. Puis là, on est comme errant. Mais le Seigneur veut nous ramener puis à nous renouveler, nous garder nos pensées en Jésus-Christ, puis à connaître sa parole, puis on marche dans sa parole, puis on est fiers d'être là, puis on le sait qu'on est dans le bon chemin. Ça remplit nos cœurs d'assurance, puis ça nous bénit. On est heureux de marcher dans la voie du Seigneur. Fait que lorsque le Seigneur nous confie un nouveau disciple, nous devons l'amener à grandir dans la présence du Seigneur. Faut y faire découvrir. C'est un bébé. Il sait pas que tu peux avoir plus que juste être pardonné. Tu peux être rempli du Saint-Esprit. Tu peux avoir ton cœur rempli de la paix de Dieu, de la joie de Dieu, l'amour de Dieu. Puis comme j'en énumérais les fruits de l'Esprit tantôt, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Mais l'Esprit veut nous amener dans un mode de vie qui va... Ça fait de toi une nouvelle créature. Ils ont besoin d'être enseignés sur ces choses-là pour comprendre c'est quoi le chemin. C'est pour ça qu'on va les escorter à faire ce que Jésus a demandé dans Matthieu 28, 19 et 20. On doit amener les gens à grandir dans le Seigneur afin qu'ils persévèrent à mettre en pratique la parole. Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu 28, 19 et 20?
Allez prêcher l'Évangile.
Amen. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Là, t'as pas de distinction de personne, peu importe. Si tu es un être humain, c'est la seule distinction que tu peux faire. Si c'est pas un être humain, t'es pas obligé d'y parler. Mais si c'est un être humain, ça fait partie de toutes les nations. Que peu importe la race, la couleur de peau, la langue, peu importe les origines, peu importe la religion. Peu importe la religion, peu importe ses orientations sexuelles. Parce qu'il y en a qui ont peur de parler. Oh, lui, il est comme ça, moi, j'y parle pas. Mais
c'est Dieu qui l'a créé,
puis Dieu veut le sauver. Puis il veut l'emmener, le régénérer, le renouveler comme qu'il l'a fait. Pis on avait tous des déviations sur tous les sens avant d'être à Jésus. Puis Jésus veut nous sauver. Là, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une des premières tâches, c'est de l'amener à se faire baptiser d'eau pour démontrer publiquement ce qui s'est passé dans sa vie quand elle s'est convertie. Elle a été pardonnée, elle est morte à elle-même, est ensevelie, l'ancien denier de poulet, il reste dans le fond de l'eau, comme Jésus a été crucifié, il est mort. Mais quand tu ressors de l'eau, tu ressors en nouveauté de vie, tu es un être ressuscité. Fait que quand tu te fais baptiser, tu démontres publiquement ce qui s'est passé quand tu t'es converti. Gloire à Dieu. Fait qu'il dit, fais des disciples, baptise-les. Puis là, il rentre en compte le deuxième mandat du Seigneur. Faire des disciples, c'est l'œuvre d'évangélisation. La deuxième, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit pendant une semaine.
Non,
c'est pas écrit pendant une semaine. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit pour le reste de sa vie.
Amen.
Il faut suivre le Seigneur jusqu'à la fin. Moi aussi, j'ai besoin de vous pour me rendre, puis vous avez besoin de moi. On a tous besoin des uns des autres. C'est ça l'Église. On est là pour se soutenir, prier les uns pour les autres, se supporter. Oui, ça arrive des fois qu'il faut se supporter. Il faut s'encourager. Il faut s'aimer. Parce qu'on travaille ensemble pour marcher dans le chemin resserré qui mène à la vie. Jésus dit à ses disciples, faites pas juste des disciples. Enseignez-leur après ça. Il est important que la personne reçoivent des enseignements, qu'elles se joignent à sa nouvelle famille, au corps de Christ, qu'elles s'unissent avec les autres chrétiens, qu'elles viennent entendre le message, qu'elles se nourrissent spirituellement. Là, le Seigneur va faire son œuvre par la prédication de la parole. Le Saint-Esprit agit, il donne des visions, il montre des choses, les gens avancent, la vie change, puis là, tu deviens une personne qui produit du fruit pour Dieu, puis là, tu marches dans la bonne direction. Fait que l'important, il faut lui donner un suivi. Là, on voit dans les Actes des Apôtres que c'est ce qui s'est passé. Dans Actes 2, 42, ça dit que les premiers qui se sont convertis, ils se joignirent aux disciples pour prier, pour recevoir de l'enseignement, pour fraterniser. Suite au début de l'Église. Parce que quand Pierre il a été baptisé du Saint-Esprit, il est sorti du perron, il a commencé à prêcher, il y avait au-delà de 3000 personnes, puis il y en a 3000 qui s'est converti cette journée-là. L'Église venait de débuter. Tout de suite, ces gens-là, ils sont pas partis chacun sur le bord. Ils se sont joints au groupe des 120 qui étaient dans la chambre haute. Ils se sont joints, puis là, ça persévérait dans Actes 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Fait que les apôtres prêchaient à ces 3000-là. Dans la communion fraternelle, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient à fraterniser, ils persévéraient à se tenir avec des chrétiens. C'est ça que ça veut dire en français courant. T'as quelqu'un qui vient d'accepter Jésus, faut que tu l'amènes à persévérer, à rester avec nous autres. C'est ce qu'ils faisaient les premiers disciples. Il y a aussi la fraction du pain puis des prières, parce que là, on le sait que c'est sans la prière, il n'y a rien qui bouge. Toutes nos victoires, c'est dans la prière qu'on va y chercher, parce que c'est pas nous qui exécutons les choses, c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre. Là, ça dit que la crainte s'est emparée de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Fait que quand t'es chrétien, né de nouveau, t'as besoin de devenir connecté avec le reste du corps. Ça dit, ils étaient tous ensemble, puis ils persévéraient ensemble, puis ils restaient ensemble. Tout est en commun, ils allaient dans le même lieu. Ça nous dit qu'ils allaient au temple. Le temple était le temple de Salomon, puis ils allaient offrir des sacrifices-là. Mais les premiers disciples, les parvis du temple, c'était la grande cour. Ça avait à peu près 500 pieds de large par 200-300 pieds de long. Puis il y en avait du monde qui rentrait là. Il y avait des heures fixes que le monde allait là pour aller prier. Fait qu'il allait au temple pour prier. Les premiers chrétiens se rassemblaient. Peut-être qu'ils n'allaient pas prier avant qu'ils se convertissent. Mais ils ont commencé à prier à partir du moment où ils se sont convertis. Puis ça allait au temple à l'heure de la prière. À l'heure de la prière, on s'en va à la réunion de prière. Puis on s'arrange pas à arriver en retard. Amen. Gloire à Dieu. Verset 46, juste un petit peu plus loin, dans Acte 2, 46, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Les premiers chrétiens, c'était une gang qui se tenait ensemble, c'est pas des brebis isolées. C'était du monde qui avait appris, ils étaient contents d'être ensemble, ils étaient heureux d'être ensemble. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie. Il était heureux, il avait la joie d'être ensemble avec des chrétiens. Quand tu es né de nouveau, il se passe de quoi spirituellement dans ta vie? Tu es content d'être avec des chrétiens. C'est vrai que des fois, il peut y avoir des conflits de caractère ou des attitudes qu'on subit parce qu'on n'est pas tous 100% devenus comme Jésus à partir de notre conversion. On va en avoir des frictions. Mais l'amour de Dieu produit dans nos cœurs par le Saint-Esprit devrait être encore plus grand que tout cela. Nos cœurs sont remplis de joie par la présence du Saint-Esprit. Puis là, ils prennent de nourriture ensemble avec joie, là, puis ils louent en Dieu. Ça veut dire que la louange n'a pas commencé au 20e siècle avec les chants de sur les ailes de la foi, puis cœur et cantique. Les chants, ça existait dans le temps de Jésus, puis les premiers apôtres, ça loue à Dieu. Vers David, Salomon, puis on voit que Jésus a chanté des cantiques dans le jardin de Gethsémané. Des chants, là, ça faisait partie de leur vie courante. Quand Paul lui a dit, vous voulez, soyez remplis de l'esprit, chantez des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur. Mais c'était pas un secret dans ce temps-là. Il savait que quand tu louais Dieu, tu étais touché par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Puis là, c'est encore valable aujourd'hui. Tu peux être rempli du Saint-Esprit. Tu peux être né de nouveau, ça c'est une chose, mais il y a une autre expérience, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Revêtu du Saint-Esprit. Ça, c'est d'autres choses. Tu le vis quand tu te connectes. Quand tu es ensemble et tu te connectes, c'est encore plus fort. On va regarder éventuellement une étude là-dessus qui va nous parler de ça, on te faire comprendre que la présence de Dieu est au milieu de la louange de son peuple dans la grande assemblée. C'est ici. Je ne dis pas qu'elle n'est pas ailleurs. Oui, tu peux le vivre chez vous aussi, tu prends un temps pour louer le Seigneur. Mais Dieu a préparé ça dans le but justement d'accompagner aussi ceux qui ne sont pas capables de le faire chez eux. Mais ils viennent recevoir à l'Église. Puis si les plus vieux, ils disent, oh, ben moi, je fais ma femme, ma petite affaire tout seul, puis je reste chez nous. Mais t'es pas là pour donner à l'autre ce que tu as compris, ce que tu as reçu. Puis c'est le plan de Dieu qu'on donne aux autres. Qu'on amène un nouveau, puis on s'en occupe, puis on l'accompagne, puis on va l'accompagner jusqu'à la fin. L'Église s'édifiait, puis marchait dans les voies du Seigneur. Une fois qu'une personne est greffée au corps de Jésus, elle s'est jointe des chrétiens, elle a appris à louer, elle a appris à prier, elle a appris l'enseignement des apôtres, ça dit que l'Église s'édifiait. On voit ça dans Actes 9, 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Ça veut dire qu'il y avait bien plus qu'une Église, là. S'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. L'Église s'édifiait. Ça, c'est la part des chrétiens. De travailler à édifier les autres. C'est sûr qu'on peut vivre des affaires qui nous frustrent, c'est vrai. Ça arrive à tout le monde. Mais faut pas abandonner le plan de Dieu. La vision de Dieu, c'est l'Église travaille à édifier. Édifier, c'est de bâtir un édifice, une construction. Puis tu la fais monter de plus en plus grande, de plus en plus solide, de plus en plus belle, de plus en plus... Elle a une croissance, l'Église, en quantité puis en qualité. L'Église, c'est chacun des membres qui doit travailler à édifier les autres. Fait que quand je viens ici pour vous édifier.
Amen.
Quand vous venez ici, il faut que vous veniez aussi dans la même raison. Venez pour édifier les autres. L'Église, c'est chacun de nous. Mais le Seigneur ne nous laisse pas tout seul. Parce que ça dit, l'Église s'édifiait, puis elle marchait dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Fait qu'il y a notre part à faire, on travaille à édifier, puis le Saint-Esprit va faire croître. Le Saint-Esprit va agir, le Saint-Esprit va rajouter d'autres brebis, le Saint-Esprit va manifester ses dons, la puissance de Dieu va être à l'œuvre, puis notre vie va changer, puis on va être une Église qui porte du fruit pour le Seigneur. Fait qu'on a notre part de responsabilité, puis le Saint-Esprit va faire le reste. On travaille pas tout seul, mais il faut être là, c'est ça qui est le point. On emmène une nouvelle brebis, puis tu l'amènes à être greffé au corps, fait que là, après ça, tu t'en occupes, puis quand qu'elle vient ici, il faut qu'elle reçoive l'édification. Fait que quand tu y parles à cette personne-là, c'est pas pour y critiquer. Pourquoi faire que tu t'es mis du rouge à lèvres qui dépasse jusque-là? Pourquoi faire que tu t'es pas peigné? Pourquoi faire que tu t'es pas lavé? Puis là, pourquoi tu mets du linge sale? Puis là, on trouve des critiques. Ça édifie pas, ça, là. Faut se parler de façon à s'encourager, à s'édifier, à se bénir, que la personne sorte de l'Église, édifiée, fortifiée, puis qu'elle marche dans la crainte de Dieu, puis elle est contente. C'est vrai. Moi, je l'ai reçu souvent, ça. Mais ça m'est arrivé aussi de sortir de l'Église démolie, puis j'étais attristé, puis que j'avais pas reçu pantoute, puis tu sors de là pire que quand t'es rentré, la manière que t'es rentré. Ça peut arriver, mais c'est pas le plan de Dieu, puis c'est pas normal que ça soit comme ça. On sera supposé de sortir béni, restauré, rafraîchi, guéri, délivré, baptisé du Saint-Esprit, on sort transformé par la puissance de Dieu. Amen.
Amen.
Les responsables des églises doivent superviser avec vigilance la croissance des brebis et veiller sur l'enseignement qui est partagé dans l'église. Tout ça, c'est un contrat. Parce que l'apôtre Paul, quand il est en train de parler, il dit « Le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître le troupeau du Seigneur. » Mais dans Actes 20, versets 29 à 31, ça dit « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé, nuit et jour, d'exhorter avec larmes chacun de vous. » Là-dedans, là, tu vois le cœur de l'apôtre Paul. Il aimait les brebis qui venaient d'accepter Jésus. Les nouvelles brebis, il les avait à cœur, puis il pleurait jour et nuit, puis il priait, puis il s'en occupait, puis il les exhortait jour et nuit à ce qu'ils persévèrent dans la foi. Il dit, pendant 3 ans, j'ai pas cessé de le faire. Puis là, il dit, lui, il savait qu'il s'en allait, fait qu'il dit aux autres qui sont là pour gérer les églises dans leur territoire, il dit, faites attention, il va venir des loups cruels qui veulent détruire le troupeau. Fait que l'église, c'est un endroit rassurant, en autant que tout est bien fait. Là, on fait attention pas dire de conneries ou de choses non bibliques, puis on s'édifie, puis on s'encourage, tu sors d'ici dans une sécurité, nourri des paroles de vérité, tu sors d'ici béni, puis tu grandis dans le Seigneur. Puis on doit grandir en maturité pour que nous-mêmes, on fasse attention aux nouvelles brebis qui vont se rajouter. Amen. Amen. L'apôtre Paul, il démontre son attitude, son cœur pour les brebis du Seigneur, la manière que, on voit des passages, comment est-ce il avait appris à passer par-dessus de ses idées personnelles, parce que avant d'être chrétien, faut pas oublier qu'il haïssait Jésus, lui. Il tuait du monde. C'était pas un bon gars. C'est le genre de gars que quand tu le vois, tu te tasses de là, parce que t'as peur de lui. C'était ça, Paul. Mais après, quand il était transformé par le Seigneur, il aimait les brebis du Seigneur, puis il pleurait pour eux autres. Puis il dit dans 1 Thessaloniciens 2, le verset 7 et 8, « Et nous avons été pleins de douceur parmi vous. De même que nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore nos propres vies. » Il était prêt à mourir pour les brebis du Seigneur. Quand il allait à l'église, c'était pour se donner l'Évangile, aimer les personnes, les entourer, les conseiller, prier avec eux autres. C'est ça l'Église du Seigneur. C'est ce que ça devrait être. C'est ce qu'il faut mettre en pratique ici, frères et sœurs. On veut avoir une Église comme cela, qu'on prie les uns pour les autres, qu'on s'encourage les uns les autres, puis qu'on s'accompagne dans notre marche. Il n'y a pas d'Église parfaite, ça je le sais. On l'a déjà entendu. La minute qu'on rentre dans une église parfaite, elle tombe imparfaite, parce que moi, je suis pas parfait. La minute que je vais rentrer dans une église parfaite, elle va tomber imparfaite. Mais il n'y a pas d'église parfaite. Mais on vise à la perfection. On veut se perfectionner, puis on veut que l'église se perfectionne. Que tout ensemble, on devienne un solide assemblage. Amen. Son intérêt à Paul était de voir les membres du corps de Christ se perfectionner. Ça le dit dans la parole. Dans 2 Corinthiens 13, le verset 9. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Fait qu'il veut, là, dans sa vision de l'Église, l'apôtre Paul, il sait que c'est le centre de l'édification et de la croissance, du perfectionnement. Il veut que chacune des brebis, quand elle rentre, puisse recevoir tous les outils, l'attention, les soins nécessaires pour qu'elle puisse se perfectionner. Dieu veut nous amener à être comme Jésus. Fait qu'il va le faire en moi, puis il va le faire en chacun de vous. Puis quand une nouvelle brebis va accepter, il veut le faire en elle aussi. Il faut qu'elle soit entourée. Il faut qu'elle reçoive tout ce qu'elle a de besoin. Ça prend, dans votre perfectionnement, Vous allez arriver à un point de renoncement à vous-même, au point d'être prêt à vivre pour les autres. Amen. Être prêt à donner votre vie pour les autres. C'est ça le but, Paul. Jésus l'a fait. Paul l'a dit qu'il le ferait. Il serait prêt à donner sa vie. Pas juste l'Évangile. C'est facile de dire aux autres, crois ça, là, crois ça, crois ça, fais ça, fais pas ça. C'est facile, mais être prêt à donner sa vie, hein, part de son temps, de son argent, de ce qu'elle a en sa disposition pour aider. C'est ce que Dieu veut nous amener. Ça fait partie de notre perfectionnement.
Amen.
Il nous enseigne, Paul, qu'on doit rechercher à nous soutenir et à nous perfectionner. 2 Corinthiens 13, 11, ça dit, « Au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous. Consolez-vous. Ayez un même sentiment. Vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Cherchons le perfectionnement. Y a-t-il quelqu'un qui est rendu parfait?
Non.
Donc, je dois chercher à le devenir. Quand je l'aurai atteint, j'arrêterai de me chercher à me perfectionner. Quand est-ce que vous pensez qu'on va devenir parfait? Dans notre corps glorifié, après notre résurrection, là, on va avoir un corps parfait. En attendant, faut travailler à l'être le plus possible. Si on fait des erreurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Pardonne-moi, j'ai fait une erreur, ça arrive, on s'humilie. Puis c'est correct, on prie les uns pour les autres, c'est réglé. On va en faire des erreurs. C'est pour ça qu'il faut autant qu'on s'attend à ce que l'Église nous édifie, mais il faut savoir aussi que des fois, il faut que je pardonne. Des fois, l'autre est dans un moment de peine, a besoin d'être consolé, je suis capable de consoler. Ou des fois, ça peut être moi qui est triste, puis j'ose pas en parler à personne pour que personne prie pour moi. Mais non, Dieu dit, consolez-vous les uns les autres. C'est pas juste au pasteur à écouter, puis à prier, puis à entourer. C'est tout le monde, on est la même famille. S'il y a une famille sur la terre, c'est la famille de Dieu. Les autres, ça va tout disparaître. Il y a juste la famille de Dieu qui demeure éternellement. Amen.
Un royaume.
Un seul royaume. C'est pour le perfectionnement que Jésus a donné les ministères à son Église. On le voit dans Éphésiens 4, les versets 11 à 15. Ça parle que Jésus, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Fait qu'il est important que les gens qui acceptent Jésus viennent chercher la nourriture spirituelle dans la grande assemblée. C'est l'endroit idéal pour connaître la parole de Dieu, connaître la pensée de Dieu, apprendre à connaître Dieu, parce qu'on veut savoir c'est qui Dieu, on veut savoir ce qu'il aime, ce qu'il aime pas, on veut lui plaire. Fait que c'est ici que ça se passe, puis on apprend à marcher dans le nouveau mode de vie chrétien. Parce que c'est un mode de vie, être chrétien. C'est pas juste un titre. C'est un mode de vie. Un chrétien, ça marche dans la sainteté, ça marche dans l'amour, la joie, la paix, la patience. Un chrétien, c'est fidèle. Un chrétien, ça se donne aux autres. Les chrétiens veillent sur la famille de Dieu. Les chrétiens veulent sauver les hommes. Il y a plein d'affaires qu'on pourrait énumérer, qu'on va énumérer un jour si Dieu le permet. Le but, pourquoi que Dieu veut notre perfectionnement? Parce qu'il veut pas qu'on reste comme qu'on était quand on a accepté Jésus. Avant qu'on l'accepte, on était dans nos péchés, puis on avait par-dessus la tête de nos péchés. Puis on était perdus, puis on connaissait pas le chemin. Jésus, quand il te voit que tu veux te repentir, ça veut dire il voit que tu veux changer de vie, que tu veux suivre Jésus. Bien, Dieu, il aime ça. Puis là, il dit, c'est correct. Je te reçois. T'as confessé? Quand je pardonne tes péchés, Jésus a tout accompli. Là, t'es pardonné. Quand là, mon Saint-Esprit rentre en toi, puis là, t'es devenu une nouvelle créature. Là, il nous accompagne, puis il dit, joins l'Église, puis tu vas trouver le perfectionnement. Dieu dit, j'ai déjà donné des dons dans mon Église pour faire des ministères, puis ça va t'aider à t'équiper dans ta marche chrétienne pour que toi aussi tu te perfectionnes, puis que toi aussi tu rentres dans ton ministère. Dieu, il y a un ministère pour chaque personne. Il n'y a pas juste apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Dieu a préparé des œuvres afin qu'on les pratique. Pas juste moi. Chacun de vous, là, Vous pouvez vous dire, Dieu a préparé des œuvres afin que je les pratique. C'est votre ministère. L'appel de Dieu sur votre vie. Il veut vous rentrer dans votre appel. Il veut vous perfectionner afin que vous soyez tous en train de servir Dieu.
Amen.
Je le veux. C'est ce que ça dit tout de suite après dans Éphésiens 4, 13 à 15. Il dit, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Fait que le perfectionnement des saints, c'est en vue du ministère. Fait que moi, quand que je vais me perfectionner, c'est en vue de mon ministère. Chacun de vous, en vous perfectionnant, vous allez rentrer dans vos ministères, dans vos services que vous avez à faire pour Dieu. C'est l'édification du corps du Christ. C'est ce que ça dit. C'est ça le premier ministère des chrétiens. Travailler à l'édification, à la croissance de l'Église. Fait qu'une nouvelle brebis qui rentre ici, elle va être entourée, recevoir les soins. La nourriture spirituelle, elle va se perfectionner, elle va rentrer dans son ministère, puis elle va travailler elle aussi dans le corps de Christ. Jésus a dit, chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, il dit, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, quand on sert le Seigneur dans son Église, c'est à Jésus qu'on rend les services. On est heureux? On est heureux de servir le Christ dans son Église. Moi, je suis heureux. Gloire à Dieu. Puis il dit, jusqu'à ce qu'on soit tous parvenus dans l'Église, à l'unité de la foi, de la connaissance de Dieu, puis qu'on vienne à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ. C'est le but pour chacun de nous qu'on devienne comme Jésus. C'est ce que je dois rechercher. C'est ce que vous devez rechercher. C'est ce qu'on doit amener le nouveau qui va accepter Jésus. On ne le laissera pas chez eux. On ne l'abandonnera pas chez eux. S'il nous dit qu'il ne veut plus rien savoir, là, il renie le Seigneur. Parce que s'il nous reçoit, il reçoit Jésus puis il reçoit Dieu le Père. Mais s'il nous rejette, puis il dit, moi, les chrétiens, je ne veux pas rien savoir, je ne veux pas aller là. Mais il est en train de rejeter Jésus puis rejeter Dieu le Père. C'est juste comme ça. Puis il dit, s'ils vous reçoivent, restez là. S'ils vous rejettent, partez secouer la poussière. Fait que quand une personne accepte Jésus, tu restes là, tu t'en occupes, tu l'amènes à se greffer au corps de Christ, qu'elle reçoive ce qu'elle a besoin pour grandir. Amen.
Amen.
Je fais un appel présentement. S'il y a des gens qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, ils aimeraient ça faire partie de la famille de Dieu, ils aimeraient ça avoir l'assurance d'être sauvés. Vous le savez que j'avais fait des péchés, j'en ai fait, on en a tous fait. C'est une honte, oui, je le sais, c'est honteux de faire des péchés, mais Dieu veut te les pardonner, tes péchés. Il veut te donner le pardon, puis il veut te donner une chance de recommencer ta vie à zéro, puis de marcher pour lui et avec lui. Avec lui, c'est parce que quand tu vas recevoir le pardon, il va te donner le Saint-Esprit, il va venir habiter en toi, ta vie va changer, tu te reconnaîtras plus. Si vous voulez faire la prière pour donner votre vie au Seigneur, je vous demande de répéter cette prière-là avec moi. C'est une prière, c'est une courte prière, mais c'est une prière que vous faisiez de votre bouche. C'est un choix de devenir chrétien. Tu ne deviens pas chrétien par hasard, puis tu te réveilles au ciel, tu n'as jamais su ce qui t'est arrivé, non. C'est un choix que tu as fait de répondre à l'appel que Dieu te dit. Accepte Jésus comme ton sauveur, puis te dis oui, je l'accepte comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Je veux le suivre, je veux le servir tous les jours de ma vie. Je veux changer de vie, je veux vivre pour le Seigneur, mais si tu as ce cœur-là un matin, puis tu veux faire partie de la famille de Dieu, tu vas avoir l'assurance d'être sauvé. Dieu va le faire. On va faire une prière ensemble, répéter cette prière-là avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu. Mais je sais que Jésus est mort sur la croix, il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Je veux le suivre, je veux le servir tous les jours de ma vie. Prends ma vie, je te la donne, et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen.
Amen.
Si vous avez fait cette prière, Dieu vous a pardonné. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Vous avez reçu Saint-Esprit, Dieu vient de commencer une œuvre en vous. Joignez-vous dans une église évangélique, pour entendre la parole de Dieu, pour entendre les enseignements, pour que votre vie soit accompagnée pour votre développement de votre vie spirituelle. Dites-le que vous avez accepté Jésus comme votre sauveur personnel. Faites-vous baptiser. Servez le Seigneur. Amen.
Amen.